Bienvenue au Polysécur, épisode spécial. Je suis accompagné de Ingrid et Marina.
Bonjour.
Bonjour.
Et aujourd'hui, on va discuter de le sujet lui-même, puis qui nous fait énormément rire juste avant même de commencer à l'aborder. C'est quand l'agilité manque de flexibilité. Ça, c'est l'idée de départ. C'est où on commence notre discussion aujourd'hui. Et on va voir où ça va se terminer. Puisqu'en free show, on a déjà discuté d'énormément de choses, de comment tout ça s'articule. Je vais vous laisser commencer, puis je vais rebondir et montrer que j'ai de l'agilité et de la flexibilité.
En fait, tu nous as surtout expliqué que toi, tu étais agile comme un singe et que tu n'étais pas trop Georges de la jungle à te manger tous les troncs. Donc ça, c'est ce qu'on verra. Mais en tout cas, moi, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, Marina, mais j'en ai qui se sont beaucoup vendus comme étant très agiles et qu'au final, on s'est fini dans les murs. Donc je ne sais pas toi de ton côté, mais en gestion de projet, moi, ça n'a pas toujours des bonnes expériences.
Oui, parce que par rapport à ce flou aussi, par rapport à la représentation de l'agilité. Donc, qu'est-ce qu'être agile en conduite de projet, finalement? Sur quoi se base-t-on? Est-ce qu'il existe des outils, des méthodes où justement être agile signifie être flexible et donc finalement co-construire avec l'équipe et co-fabriquer ses propres méthodes?
Bah, on en a aussi déjà un peu parlé la dernière fois sur le vocabulaire. Parce que là déjà aussi, qui dit agilité dit plusieurs compétences, plusieurs métiers, parce qu'il va y avoir le pilote du projet et puis après il y a ceux qui vont devoir confectionner, concevoir, et puis il y a ceux qui sont les utilisateurs finaux, ceux pour qui on travaille et ceux pour qui on va réfléchir le changement, parce qu'en fait c'est du changement à chaque fois. Et en fait, c'est arriver à harmoniser ce vocabulaire et cette sémantique. Donc, on ne va pas vous refaire le dernier podcast. Ça, on vous invite à aller l'écouter. Mais en tout cas, moi, du constat du dernier podcast, on disait que le vocabulaire qui n'était pas, on ne parlait pas de la même chose avec les mêmes mots, qui crée de l'incertitude dans les organisations, mais ça a été toujours sur de la conduite de projet ou sous prétexte qu'ils étaient agiles, mais ils me parlent de l'agilité comme ils me parlent du RGPD. Je remplis un document, donc en fait, je suis conforme. Non, le RGPD, c'est évaluer et accompagner des usages numériques, c'est en aucun cas remplir des cases. Donc voilà, de toute façon, c'est toujours le même problème. À vouloir rentrer dans le moule, on finit tarte. Donc moi, être une quiche, c'est pas mon délire. Donc de toute façon, à un moment donné, il faut nous laisser notre libre arbitre et puis il faut que ce soit le reflet du besoin réel. Et le changement ne marchera que s'il est adapté à l'organisation et à ses acteurs.
Ouais, mais fondamentalement, l'agilité n'est pas un modèle rigide et dans ce cas-là, qui permet justement d'avancer puis permet de rassembler les gens autour d'une idée. À ce moment-là, on en a parlé la dernière fois, le problème d'injection ou de compréhension des gens de ce qu'est être agile comme un singe et non d'être agile comme la méthodologie. Et déjà là, on a un défi, un énorme défi de compréhension au niveau des gens quand ils vont peinturer. Tu donnes l'exemple sur le RGPD, ils me disent on est agile. Oui, agile comment là? C'est quoi ton modèle que tu utilises pour dire que tu es agile quand je vois rien d'agile dans ce que tu fais? Ni de flexibilité, ni de rien. Là, rien de tu pivotes pas, tu n'es pas capable de t'adapter, tu n'es pas capable de rien. Fait que là, déjà là, Il y a un refus même avant même d'adhérer à une méthodologie de travail qui est agilité dans ce cas-ci, ou lean à certains égards. Même le changement de méthodologie de travail n'est pas accepté. Fait que là, on a un problème de rigidité très, très, très important.
En plus, l'agilité, au-delà d'une méthodologie, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie. Et pour accompagner le changement, pour arriver au résultat, pour quelque chose. Enfin, moi, on m'a toujours expliqué que pour obtenir du changement, il fallait impliquer les personnes, il fallait fédérer. C'est la base. Donc, comment je crée une communauté? Comment je crée une culture partagée? Comment je fédère? Si déjà, à la base, tu commences à dire « il faut que tu me remplisses la grille et que tu rentres dans les cases et que tu me fasses ta user story et que moi, je suis product owner », déjà, on a perdu tout le monde. Donc, parce que là, je vois mon équipe, mes utilisateurs finaux, et ils me disent, mais qu'est-ce qu'il me dit, quoi? Mais user story, mais user de quoi? Story de quoi? Et tout. Et le gars, il va dire, mais moi, je fais ça. et j'aimerais faire comme ça. Mm-hmm. Puis des fois, en fait, il faut savoir que des fois, l'utilisateur final, le changement au départ, ça ne l'intéressait pas. Lui, il maîtrisait sa pratique. Et quand on commence à dire, on va changer ta pratique, déjà, il y a l'acceptation de, au fait, va falloir changer. Donc, il faut déjà que le chef de projet, il vende le truc. Hein.
Ouais, c'est déjà un défi. Puis, en termes de les bureaucrates sont très bons, justement, pour arriver avec des idées. On va changer les systèmes, on va changer les processus, on va changer les méthodes de travail, on va tout changer. Mais sans aucune compréhension des gens autour de cette situation-là qui vont vivre le changement dans les conséquences. Puis, ces gens-là, c'est ça qui me fascine. Puis en TI puis en cyber, on est très fort là-dessus. On va s'inventer des façons de changer. On va dire, on améliore les choses, mais... C'est pour nous qu'on améliore, c'est jamais pour l'utilisateur final. Fait que c'est un peu, c'est bien qu'on parle de story à un moment donné, puis qu'on parle que le user doit être participant au story, mais le changement n'est pas fait pour l'utilisateur. Il est fait pour les TI eux-mêmes. Fait que c'est genre une entreprise. Fait que, puis les bureaucrates sont très bons pour générer du changement pour eux-mêmes, pas pour la business, pas pour la société, pas pour eux. Eux vont créer du changement parce que ça, ils s'ennuient dans leur travail.
La pépite, c'est quand, en fait, l'agilité te crée du un-user, la stratégie de contournement de l'utilisateur final. Parce que des fois, ils laissent le délire du développeur et c'est tellement déconnecté de leur réalité et que de leur pratique professionnelle qu'à la fin, non, là, c'est même plus du changement. C'est que là, c'est autre chose. Mmh. C'est pas un accompagnement dans la conduite du changement.
Mmh. D'autant plus que par rapport, en tout cas, à ce concept d'agilité, on parle de méthode. Donc, qui dit méthode suppose, en tout cas, le cadre, qui est peut-être pas si flexible que ça. Néanmoins, je rebondis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Ingrid, et Nicolas Loïc, par rapport à la nécessité aussi d'avoir une cohésion, un langage commun. Et je pense que ce qui est nécessaire en agilité, c'est pas forcément d'appliquer à la règle la méthode, c'est surtout dans un premier temps d'aller au contact des personnes, essayer de comprendre ce que vivent les personnes, leurs besoins, les objectifs aussi pour une organisation, parler un même langage, créer de la confiance, parce que sans confiance, on peut avoir des réticences. Qui dit réticence, généralement dit échec, notamment en conduite de projet. Et je pense aussi que pour être agile, c'est aussi avoir la capacité de s'adapter, d'être réactif, mais réellement réactif par rapport aussi à l'environnement, parce que tout va très vite aujourd'hui. Et je pense pas, mais c'est mon point de vue, qu'en utilisant une méthode figée, on devienne du jour au lendemain plus rapide par rapport à son environnement. Autrement, pour moi, ça serait beaucoup trop simple, selon moi. Je pense que ce sont des mécanismes aussi qui doivent s'apprendre en équipe et on doit apprendre justement ensemble à faire face à l'imprévu et à l'incertitude, mais peut-être aussi en faisant appel non pas à des méthodes et des cadres finalement figés, mais plutôt à l'humain et finalement à nos compétences, ouais. À nos capacités cognitives, par exemple.
Les méthodes rigides comme ça, puis c'est drôle parce que je viens de lire un ouvrage très intéressant justement sur la gestion de crise. Quand on est trop planifié d'avance, on réduit le champ cognitif ou la capacité des gens à agir de façon utile. Donc, on se limite nous-mêmes dans les choses, donc de ne plus être capable de voir le champ des possibles dans sa totalité, et on le restreint de façon très importante. Puis ce que tu mentionnes, c'est exactement ça. On réduit le spectre cognitif ou la capacité des gens à agir, qu'on parlait d'Ingrid de libre-arbitre aussi, d'agir dans leur pleine capacité. Ils vont agir selon le processus, ils vont agir selon les règles, ils vont agir selon la méthodologie, et ils vont s'y limiter. En gestion de crise, dans l'ouvrage que j'ai lu, ben c'était le spectre, les dangers associés à ça, mais dans la conduite de n'importe quelle autre activité, c'est aussi problématique parce qu'on retire la capacité de chaque individu à contribuer à la hauteur de sa capacité de contribution réelle et on le limite à une seule case à cocher. Et lui, on a un produit qu'on a, on coche la case, félicitations, mais lui ne comprend absolument rien de ce qu'il fait et devient un être rigide dans un processus et ensuite, ben, il va s'approprier. Comme toute belle bureaucratie, il va s'inventer une rigidité. Là, là, au moment de l'enregistrement, j'ai vécu ce qui était hier, un moment d'énorme rigidité de processus et ça m'a fasciné à quel point les gens sont très, très rigides et ne sont pas capables de sortir du petit spectre de ce qu'on leur a donné. Donc, effectivement, ça l'amène, même si on se dit agile, la flexibilité, elle est fondamentale. Et Puis même être en dehors du modèle agile dans ce cas-ci, là, mais aller, si on se base sur le manifeste agile, parce que c'est ça, tout ça est parti du manifeste qui a été énoncé et qui en a découlé une méthodologie structurée. Mais la structure ne doit pas remplacer l'intelligence ou le manifeste initial de l'agilité. Là.
Et justement, en fait, dans la continuité, tu nous disais que, enfin, déjà sur la culture partagée, pour moi, il y a bien la connaissance des outils. Pourquoi ? Parce que si je veux être force de proposition et si je veux que mes utilisateurs finaux expriment leurs besoins, il faut qu'ils comprennent ce que j'attends comme information. Et des fois, moi, je me retrouve avec des prestataires ou celui qui doit concevoir qui me dit « Ah bah oui, mais vous avez fait évoluer le besoin ». Non, moi, l'effet à obtenir a toujours été le même. Par contre, c'est toi qui n'avais pas compris. Puis maintenant que tu te rends compte que tu t'es planté dans ta compréhension du problème et du besoin, tu viens me dire qu'il faut que je paye plus cher. Bah non, ça s'appelle la gestion du risque et c'est pour ta pomme. Dommage. Bon, ça, c'est le juriste un peu psychorigide, mais des fois, il faut un peu reprendre les clauses du contrat et rappeler les règles du jeu. C'est pas parce qu'il ne maîtrise pas la méthodo, parce que là, on en revient aussi encore à la question de « j'ai rempli les cases ». Mais est-ce que je les ai remplis correctement? Et comme en fait les documents sont rédigés par l'expert et donc en général par le prestataire, la problématique c'est que comme il dit pas ce qu'il attend, parce que lui il questionne, mais il interroge pas sur la compréhension du questionnement, enfin de la réponse de l'utilisateur final. Mais l'utilisateur final il dit déjà j'ai même pas compris la question qu'il m'a posée parce que je comprends rien ce qu'il me dit. Donc il y a, ça aussi, c'est vraiment le dialogue de sourd dans sa splendeur. C'est magique. Et en fait, le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir une démarche de progrès, c'est de dire à mon prestataire, bah, désolé, t'as merdé. En fait, t'as merdé. C'est toi l'expert. C'est toi qui sais ce dont t'as besoin pour travailler. Maintenant, t'as pas su interroger l'utilisateur final. C'est pas mon problème. C'est ton problème. Lui, il te parle en effet à obtenir. L'effet à obtenir a toujours été le même. Maintenant, tu t'es pas interrogé sur son usage parce que c'était par rapport à un usage. Et comme tu t'interroges pas et que tu pars du principe que tu as tout compris, que tu as rempli les cases, oui, mais tu les as remplies comme un pied. Donc, à un moment donné, tu auras forcément un résultat merdique parce que ta donnée, elle est tronquée. Elle est biaisée parce qu'elle est biaisée par ta représentation et qui n'était pas la bonne. Mais c'est la gestion du risque, et ça aussi, dans les documents qu'on a sur la gestion du risque, dans la méthode agile, on intègre cette question du risque. À chaque fois, c'est drôle, mais la question de la bonne compréhension du besoin, c'est jamais vu dans le développeur débile qui n'a pas cherché à comprendre et qui est parti en sachant, et que c'est forcément l'utilisateur final qui est un abruti. Non, l'utilisateur final, lui, il sait ce qu'il a à faire, il sait ce dont il a besoin. Maintenant, c'est toi qui n'as pas su tirer les informations dont tu avais besoin dans ton métier, mais parce qu'il ne connaît pas ton métier. Et donc, cette culture partagée qui prend du temps, certes, au départ, toute cette période, en fait, de on fait connaissance et tout, mais bon, merde, on ne couche pas le premier soir. On commence par s'apprivoiser. Il y a tout un truc et tout de séduction et de rapprochement pour savoir si on peut s'entendre.
Mais au-delà de ça, puis la méthode agile évite normalement ce genre de choses-là, parce que comme on est supposé faire des scrums réguliers, donc de reconnecter régulièrement avec l'autre personne, on n'a pas supposé avoir de glissement de communication qui, après un an, on se rend compte qu'on n'a pas compris les besoins de l'utilisateur ou de notre conquête. Et on est supposé avoir au moins à toutes les semaines, trois semaines, dépendant des fréquences choisies, revalider qu'on est à la même place, que la compréhension mutuelle est toujours la même et elle va évoluer au gré de ça et non. Donc, ce que tu mentionnes, c'est vraiment d'une rigidité qui n'est pas agile, c'est fait de façon monumentale.
Oui, mais il y a peut-être aussi parce que le gars, il se prend déjà pour un cador et qu'à partir du moment où si lui-même ne se remet pas en cause, on ne va pas avancer sur le problème parce que qui dit agilité dit aussi l'acceptation de se remettre en cause par rapport à des écarts quand on fait les tests. Et il y en a qui, de toute façon, déjà de dire c'est de la faute de l'utilisateur qui s'est mal exprimé, là déjà on sait que ça va être compliqué sur la suite du projet parce qu'on dit il est convaincu d'avoir raison, le con, mais en même temps il n'a pas gagné Danse avec les Stars, hein. C'est pas un roi de la danse latine, donc l'agilité c'est pas trop ça, quoi.
Oui, Ah, sur ça, je suis un très mauvais danseur, donc je ne gagnerai jamais à ces éléments-là. Mais oui.
Mais oui, quoi. Moi, j'en ai plein qui me vendent des rêves comme quoi c'est des gros champions de l'agilité et que le projet, ça va super bien se passer grâce à eux et qu'en fait, on cultive les emmerdes, les retards, les incréments sont pas livrés ou livrés partiellement. Après, ils te rajoutent des bons de commande et tout. Non, mais sérieux, quoi, t'as envie de distribuer les claques, tu sais, c'est un clic, deux claques. Dès que j'ouvre le mail, je les tarte, quoi. C'est pénible, c'est très pénible.
C'est peut-être aussi parce que le fait de présenter, en tout cas, une méthode qui se dit, qui se veut agile et donc flexible, s'adapter à un contexte aussi, et un besoin, c'est aussi peut-être que ça rassure quelque part, dans un premier temps, en tout cas celui qui doit conduire le projet, parce qu'il y a quand même, on ne l'appelle pas ainsi dans la méthode agile, mais il y a quand même pour moi un directeur de projet, qu'on le veuille ou non, et je pense que c'est aussi fait pour rassurer. Maintenant, est-ce que c'est la bonne solution ou non ? Je sais pas, dans la mesure où, comme tu le dis, des fois, on ne va pas forcément tout prévoir non plus dans ces méthodes-là. Il peut, et le fait, en plus, qu'il y ait un cadre et qu'il y ait des cases à cocher, par expérience, mais pas du tout en méthode agile, mais sur d'autres projets, on sait que la contrainte engendre aussi le contournement par les acteurs d'un projet. Et ça, c'est inévitable à chaque fois. Et j'en reviens donc à cette nécessité d'être vraiment à l'écoute aussi du véritable besoin et de ce qu'il est vraiment envisageable de faire. Donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Qu'est-ce qui est faisable ou non, concrètement, pour mener à...
Parce que moi, parce qu'en plus, on rejoint nos travaux de recherche avec l'équipe dont on fait partie, avec Marina. C'est qu'à un moment donné, nous, on soutient que l'humain peut être le maillon fort et que le problème n'est pas forcément entre la chaise et l'écran. Et qu'à un moment donné, faut bien voir aussi que ces projets qui sur le départ, sur le papier, l'agilité, c'est placer les individus, enfin c'est prendre en compte les individus et leurs interactions. Donc, c'est prendre conscience aussi que ce sont des métiers divers et variés et que bah, dans l'habitude et dans l'organisation, c'est pas des gens forcément qui se côtoient. Donc, c'est là où on va créer une dynamique transversale, une interaction. Enfin, on crée vraiment un groupe, un esprit d'équipe. Donc, il faut créer le lien dans ce groupe et créer la confiance. Là aussi, je rejoins parfaitement Marina. C'est les clés du succès, en fait, pour que l'équipe, elle fonctionne bien. Donc, on va reprendre les bases. Je ne vais pas vous envoyer faire les écoles de scout ou bien faire du sport co. Mais finalement, c'est des qualités qu'on a aussi dans le sport d'équipe. Ou enfin voilà quoi. À un moment donné, c'est bien aussi un petit peu de reprendre du sens. Donc là aussi reposer les choses. Et quand on reprend ces problématiques de conception, derrière on va découvrir des failles techniques de cybersécurité. C'est-à-dire que ces échecs dans la conception, cet échec dans la compréhension. Non seulement il va y avoir des stratégies de contournement des utilisateurs par rapport à l'usage parce que ça va pas correspondre vraiment à leurs besoins, donc ils vont devoir s'adapter parce que l'outil va pas être parfait. Mais en plus, c'est que derrière, je peux avoir des problèmes même de fiabilité technique du système qui aura été développé et qui aura été conçu. Et ça, en fait, quand on me parle aujourd'hui de cybersécurité et dans les stratégies d'homologation SSI, enfin, la sécurité by design, c'est aussi à un moment donné l'équipe projet et la solidité de l'équipe projet dont il faut tenir compte. Parce que à chaque fois que les équipes projet ont merdé, j'ai eu des problèmes au moment de l'homologation parce que il y a des vulnérabilités qui sont apparues, autant humaines que techniques.
Ouais. Donc, je trouve ça intéressant. Puis c'est parce que puis là, on parle d'agilité parce que l'agilité, c'est la diffusion des décisions dans les équipes. C'est cette capacité d'autonomie, un peu comme on voit dans certains contextes militaires aussi où les unités ont un certain degré d'autonomie par rapport au pouvoir central. Et là, tout le problème, c'est que là, dans plusieurs organisations, ils croient qu'ils ont adopté la méthode agile, donc donner l'autonomie aux équipes de livrer l'objectif. Puis c'est toujours important que l'objectif soit toujours mentionné là-dessus. Puis même ça sur le terrain, qu'on va parler au niveau militaire, les règles d'engagement. Quand les groupes se retrouvent à être en mode autonomie, les règles d'engagement vont guider leurs actions à tout moment, même s'ils ont perdu leur communication avec le central, et d'être capacité de décider ce qu'ils ont à faire. Ça, c'est une chose. Et c'est là où aussi on voit l'humain et le maillon peut-être fort, mais peut-être pas de la bonne façon, c'est que les décisions centralisées causent d'énormes problèmes. On l'a vu, entre autres, en Chine, et dans certains, il y a longtemps, heureusement, où la décision centrale faisait que chaque palier de reddition de compte venait à masquer son inefficacité. Et à chaque fois, ben, l'information qui remontait jusqu'en haut était insuffisante pour prendre une décision centrale et la redescendre sur le terrain, que ce soit efficace. Ça a créé d'énormes famines en Chine, entre autres. Ça, c'est un exemple qui est social, qui est très majeur et très, très dommageable à la société, mais qu'on voit dans nos organisations, les intérêts des individus dans la ligne de commandement peuvent avoir des influences très importantes sur le fonctionnement d'un projet, sur comment on présente ça. Puis je veux dire, j'ai des exemples modernes et très récents sur de projets TI que tous les intérêts ou les éléments autour du projet ont mené à ce que l'information qui était remontée, tout allait bien jusqu'à temps que le projet explose. J'ai quelques projets gouvernementaux, autant canadiens que québécois, qui sont une excellente démonstration d'absence d'agilité et qu'on a oublié qu'il y a des humains dans le processus et que les humains vont vouloir par orgueil, par peu importe les choses, vont être capables, vont agir là-dedans et vont influencer la structure du système. Mmh. Puis l'agilité vient limiter les dommages qui sont causés de cette façon-là parce que les équipes sont capables de bouger rapidement et idéalement de façon pluridisciplinaire où justement les intérêts ne sont pas cohérents et donc des fois peuvent amener à une décision beaucoup plus éclairée. Là.
Oui, et encore faut-il qu'en amont, chaque personne converge vers le même intérêt et vers le même objectif. Donc on en revient aussi en amont du projet. Que fait-on en amont justement pour converger vers un même intérêt, vers un même objectif pour éviter effectivement ensuite des intérêts divergents et puis bah, finalement l'échec de la conduite de projet.
Mais comme quoi tout ça c'est bien un état d'esprit parce que moi je peux pas trop parler, je vais parler surtout de la filière santé que je connais bien, qui est où on va fonctionner sur les protocoles et donc on peut avoir plusieurs métiers. Et parfois, on va mettre en place des procédures et, pour que le personnel soit en autonomie sans que le médecin soit là autour de la décision médicale. Mmh. Bah oui, quand il faut gérer l'urgence, à un moment donné, on fait comment ? On ne va pas attendre que le médecin arrive, il y a l'urgence. Et en fait, c'est au service du patient. Et c'est vrai que cette pensée commune autour de la qualité du soin pour le patient, donc j'ai bien des équipes qui sont fédérées. La question, c'est pour le patient et dans l'intérêt du patient, qu'est-ce qu'on va automatiser comme raisonnement et quel processus en santé. On a même développé des processus qui sont des aides au raisonnement, donc des méthodes de raisonnement tactique en quelque sorte, où on va nous dire, eh bien, écoute, là, tu as une situation d'urgence et une situation inattendue à laquelle on ne s'est pas préparé, qu'on n'a pas envisagé. À quoi as-tu pensé en sous-stress ? Parce que bah, forcément, on n'a pas été entraîné, on n'a pas préparé, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de protocole, parce que c'est ça aussi. C'est qu'à rédiger des protocoles, on crée un petit confort en disant de toute façon, s'il y a un pépin, tu auras la solution dans le petit cahier des protocoles. Oui, il va être préprogrammé en un clic, tu l'as dans le dossier informatisé du patient. Tu auras accès simplement. Voilà, parce qu'en plus, un clic est à l'info. Je rappelle, en santé, hein, on nous dit en 3 clics, il faut pouvoir accéder à l'information. Donc, 3 clics maximum. Donc, ça aussi, les développeurs, ils se liquifient quand on commence à leur dire. Et surtout quand ils commencent à nous sortir le mot de passe à 12 caractères. En santé, ça passe pas, quoi. Quand il faut accéder à l'info rapidement, ça passe pas du tout. C'est le choc des cultures, les informaticiens et les médecins. Mais n'empêche qu'on y arrive. Parce que, en même temps, les médecins, mais ça, je l'avais déjà expliqué par le passé, si ça leur convient pas, les ordinateurs volent à travers la pièce, mais pour de vrai. Donc, ça calme tout de suite les ardeurs de ceux qui diraient sur un malentendu, ça peut passer. Non, avec un médecin, sur un malentendu, ça passe pas, même si ils finissent par trouver du consensus et acceptent certaines règles. Mais une chose est certaine, dans ces organisations, on va utiliser la checklist, on va utiliser. Par contre, la remise en cause est naturelle parce que c'est s'il y a eu un incident, il est hors de question que l'incident se reproduise. Donc là aussi, c'est tout de suite qu'il y a un événement, une fiche événement indésirable, c'est pas des événements redoutés chez eux, c'est des événements indésirables. Ça veut dire que ça ne doit pas se reproduire. Et donc, en fait, il y a quand même des processus parce qu'on accepte aussi qu'avec la charge cognitive, avec le stress lié au métier, il y a des procédures d'aide au raisonnement qui sont mises en place, mais qui aident à obtenir le résultat quand j'ai pas la capacité de mobiliser mes ressources cognitives pour réfléchir. Et donc, en fait, le but est pas de rendre les gens tu réfléchis plus, tu appliques le protocole et basta, quoi. Non. C'est trouver cet équilibre.
C'est effectivement très difficile en gestion d'incident. C'est un événement indésirable, tout d'abord, comme on apprend par domaine. Mais cela étant, effectivement, les checklists ou ces listes de contrôle qu'on a ne doivent pas être justement l'absolu qui doit être mis en place, mais vraiment un aide, j'aime bien ça, l'aide à la décision, des choses comme ça, s'assurer en salle d'op, normalement, on devrait avoir les salles d'op qui ont le moins d'erreurs, le moins de problèmes, c'est sûr qu'on a des checklists, mais ce sont des événements qui sont prévisibles. C'est en salle d'op, tu sais ce que tu as besoin, tu sais que tu dois désinfecter, tu sais que tu fais ça, mais il n'y a pas de checklist sur ce qui est fait sur la personne qui est sur le billard, mais c'est vraiment le geste préparatoire à amener là qui va justement réduire que le scalpel se trouve dans le patient après. Une fois que tu l'as refermé, oups, j'ai oublié mon scalpel là-dedans. Fait que c'est pour éviter ce genre de choses-là. Donc, ils vont compter les instruments. Les instruments vont être tous pris en compte. Fait que des éléments prévisibles comme ça, oui, ça aide beaucoup. Puis ça l'enlève la charge cognitive parce que tu n'as pas besoin de te rappeler est-ce que j'ai oublié quelque chose. J'ai ma liste de contrôle qui me permet de dire j'ai rien oublié dans ce que je dois faire. Mais ça ne dit pas comment je le fais cependant. C'est vraiment ça là, qui est très important dans le contexte. Laisser l'autonomie dans comment les gens font avec l'énoncé d'un objectif ou l'énoncé d'une liste de contrôle qui leur permet justement de se contre-vérifier. Les comptables aiment beaucoup ça parce que, puis dans tous mes calculs où j'ai des chiffres, je m'arrange toujours pour avoir des listes une somme de contrôle pour s'assurer que j'ai pas merdé quelque part dans le processus. Ça m'aide. Mais ça me fait une décharge cognitive justement parce que j'ai mis en place dans le système quelque chose qui s'assure que moi, j'ai pas fait d'erreur, que moi, j'ai bien fait mon travail, des choses comme ça. Puis c'est ça que ça doit servir, à nous guider, justement à pas se faire mal soi-même.
Bah, dans notre équipe, on a Olivier Gapen, et il te dirait que c'est un outil d'assistance à l'utilisateur et que tu t'es créé un outil d'aide cognitif en fait. Et quand il parle de la suppléance de l'aide ou de l'assistance et de ce rapport, et d'ailleurs c'est tous des projets en fait, on a des outils d'assistance en cyber pour les administrateurs, mais les outils d'assistance pour l'utilisateur final, pour qu'il se rende compte qu'il y a un truc qui pue dans le monde du numérique, bah ça il n'y en a pas encore. Donc, pour identifier une menace ou une situation à risque, c'est vrai qu'il y a des choses à réfléchir, mais peut-être aussi qu'il y a un problème des prestataires du numérique. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais parce que ça veut dire que s'il y a des choses où j'ai pas le bordel dans mon système d'information, ça veut dire que je vais plus appeler pour éteindre les incendies. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des fois une mauvaise foi et dans ce cas une sorte d'influence économique à maintenir une dépendance entre les utilisateurs et les prestataires du numérique? Et donc, moi, je suis plutôt à accompagner vers l'autonomie parce que j'avoue que gérer les crises, gérer les merdes, c'est pas trop mon délire, que je préfère plus travailler sur la prévention pour avoir moins de merde à gérer parce que c'est tellement le bordel que... Et puis les conséquences, c'est-à-dire que les conséquences sont au-delà même du problème informatique. Et que, comme dirait notre doctorante qui nous a rejoint, mais tu t'intéresses toujours à la fin, parce que je pose des questions, par exemple, moi je m'occupe de la sécurité aussi des terrains d'observation. C'est-à-dire que nos terrains d'observation pour l'équipe de recherche, pour moi, c'est la protection de la vie privée, de la cohorte, des gens qui vont répondre à nos entretiens et tout. Puis j'ai dit, mais vu notre sujet, on travaille sur les vulnérabilités associées aux facteurs humains. Le but n'est pas d'afficher sur la place publique les gens qui ont des vulnérabilités. Je trouve que déjà, ceux qui acceptent de travailler avec nous, c'est déjà ceux qui acceptent de se remettre en cause. C'est ceux qui veulent aller vers du progrès et c'est ceux qui veulent s'améliorer. Donc, je fais en aucun cas, je veux les afficher et au contraire, je veux développer la confiance pour qu'on trouve de vraies solutions. Oui, je m'inquiète de tout protéger et de faire en sorte que leur identité ou qu'on ne les réidentifie pas, pour moi, c'est aussi mon éthique. C'est-à-dire, j'ai dit, pour moi, c'est inconcevable de mettre en danger quelqu'un qui m'aide. Donc, et c'est pas les oraux. Enfin, je vois pas l'équipe comme étant des oraux pour tout améliorer, comme quoi on est. Non. Pour moi, Marina en parle, la confiance, c'est sacré. Bah, déjà, c'est la base pour libérer la parole. Alors, c'est sûr que si mon développeur, mon chef de projet, je comprends rien de ce qu'il me dit, je vais pas me sentir en confiance et je vais encore moins libérer la parole. Après, il y a la technique de distribuer des claques, on en parlait avant, mais ça libère pas forcément la bonne parole.
Ouais, c'est une mesure de repli, se distribuer des claques, mais des fois c'est nécessaire, mais c'était mieux d'aller en amont avec justement de guider les gens, les amener autrement. Puis c'est justement, on revient justement pour ceux qui veulent s'améliorer, mais c'est justement les listes de contrôle et le support qu'on est capable de mettre, qu'on le développe nous-mêmes, qu'on soit agile, qu'on développe nos propres listes de contrôle, qu'on développe pour nos propres éléments comme ça, qui justement viennent nous guider, que les infrastructures, que le groupe dans lequel on travaille développe ses propres moyens, justement, pas rigides, des moyens qui servent justement à aider le groupe à performer davantage et ne pas tomber dans des pièges. Puis on revient toujours au fait que l'humain est central dans l'ensemble du processus. Si on l'évacue du processus, on fait fausse route.
Et comme en cybersécurité, là encore, les facteurs organisationnels et humains sont négligés et on nous les présente le mode agile en version très technocentrée. Alors qu'à la base, l'agilité, c'est complètement les facteurs organisationnels et humains. C'est vraiment en fait une approche facteur humain et organisation. Alors après, assis. À la cerise sur le gâteau, c'est quand ils te disent « on va faire du mode agile, comme ça on est en mode start-up ». Alors là, c'est les marketeurs. Et en fait, j'ai dit « mais qui a dit que les modes start-up, c'était faire du travail dégueulasse ?» Et surtout, de ne rien rédiger. Alors ça aussi, c'est le graal, le pompon. Bon, ok, pour la juriste, tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Mais apparemment, il faudrait que je me contente qu'en mode agile, il n'y a rien d'écrit parce qu'on est en mode start-up, tu vois, parce que là, tu manques de souplesse dès lors qu'il faut écrire. Je fais non, si j'écris, c'est que je suis sereine avec ce que j'ai fait et que je suis transparente. Et donc, en fait, c'est la base.
Et selon les secteurs, de toute façon, c'est nécessaire. On ne peut pas se passer de ça. C'est pas possible. Selon les enjeux organisationnels, justement.
Pour moi, tous ceux qui veulent pas écrire, c'est tous ceux qui manquent de maîtrise et qui manquent de transparence. Donc déjà, pour moi, pour la juriste, ça veut dire méfiance. Yeah. Ça veut pas dire confiance.
Ils ont aussi peut-être de responsabilité.
Si, t'inquiète pas, je vais leur présenter la note, moi.
Oui, ben justement, il y a peut-être aussi la question de la responsabilité. Lorsque tu écris, finalement, tu prends la responsabilité aussi de formaliser certaines choses. Donc,
mais c'est drôle parce que c'est la méthode agile est apparue pour faire de la programmation, faire du code, qui est fondamentalement d'écrire, mais ces mêmes personnes-là ne veulent pas écrire pour expliquer ce qu'on fait. On est dans un contexte de très, très farfelu, à mes yeux, puisque de toute façon, puis normalement, dans du code développé agile, tu inclus à même ton code que tu écris les explications de ce que tu as fait. Donc, il y a comme pas une obligation, mais tant qu'à le faire, ben la documentation se fait à même le code, comme on fait dans beaucoup de structures. Il y a beaucoup d'éléments maintenant, puis je favorise énormément ça. Au lieu de s'improviser, de faire des choses de façon aléatoire, parce que dans le fond, c'est ça qu'ils veulent. Dans le fond, c'est ça qu'ils veulent. La méthode agile, pour bien des gens, c'est d'agir de façon aléatoire et non structurée. La réalité, la méthode agile, il y a une structure qui a été imposée, puis c'est pas aléatoire ce qu'on fait. On a déjà des objectifs à atteindre et ils sont clairs, ils sont définis. C'est juste la façon de s'y rendre peut s'adapter et donc être agile ou flexible, comme on peut le regarder, pour se rendre. Si on rencontre une embûche, puis d'ailleurs, de grands projets de construction routière, il y en a des embûches qui mènent en cours de projet. C'est sûr que des fois, il y a des roches ou des cailloux ou des énormes choses qui n'avaient pas été prévues ou qui n'avaient été pas connues quand les travaux ont été amorcés ou ont découvert un site historique ou peu importe ce qui arrive dans la construction. Mais la méthode agile, c'est pas de dire on continue de façon, on va se reprendre un pas de recul, replanifier. Mais l'objectif, c'est toujours d'atteindre que le chose routier soit faite dans l'objectif. Et ça se peut que le tracé change parce que ce n'est plus possible de le faire de cette façon-là. Mais il y a des raisons et des explications. Mais le comment se faire, donc, c'est de vraiment correctement définir l'objectif associé. Puis je pense que même ça, les gens ne maîtrisent pas l'objectif associé.
Bah, on perd le sens. C'est-à-dire que déjà, se questionner sur à quoi doit servir le projet, c'est la base.
Oui, mais justement, à cette question, des fois, tu as des équipes projet. En tout cas, toutes les personnes de l'équipe ne sauront peut-être, répondront peut-être quelque chose, mais pas la même chose.
Aussi. Oui, mais c'est là où après on ajuste et on aligne les planètes.
Oui, et là, on fait face à de l'humain, justement. On en revient à la question de la compréhension, de la confiance, parce qu'après, dans les équipes projet, on peut être aussi amené à être confronté à des personnes qui ont leur vision aussi des choses et qui vont avoir un petit peu plus de réticence aussi à adopter certains outils, certaines méthodes. Donc, c'est là où ça peut aussi se complexifier. Donc, j'en reviens à chaque fois à redéfinir les choses vraiment en amont et à considérer aussi des personnes qui pourraient être réticentes à certains outils et à certaines méthodes, parce que si ces personnes ne sont pas d'entrée de jeu impliquées, on parlait d'influence tout à l'heure, de changement, généralement, c'est un échec en matière de conduite de projet. Et j'ai entendu quelquefois, justement, en conduite de projet et en agilité, le fait de ne pas considérer dans un premier temps les personnes réticentes pour justement amener vers un changement et pour pouvoir procéder à de l'expérimentation, par exemple, d'outils de méthode. Mais on peut pas changer les fondements, en tout cas la base d'une organisation, si on n'implique pas tout le monde. On ne peut pas fonctionner que par équipe projet au sein d'une organisation. C'est pas possible. À un moment donné, il y aura pas de changement global.
Après, de là de dire qu'il faut mettre les délégués syndicaux dans le projet...
Pas dit ça, non. Non, surtout pas. J'ai pas dit ça.
Tout le monde, des fois, il faut... Non, parce que l'opposant par principe, ouais...
Mais il y en a toujours un, cela dit. Mais c'est important. C'est bien d'identifier aussi le type de profil qu'on peut avoir, justement, sur certains projets, pour pouvoir, après, s'adapter en tant que chef de projet ou product owner ou ce qu'on veut, justement, à ce type de profil aussi. Je pense que ça peut être bien. Et en considérant que tout le monde ne va peut-être pas adhérer, justement, à la même méthode et aux mêmes outils d'entrée de jeu, juste parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire comme ça, là, aujourd'hui, telle méthode.
Tout le monde n'a pas déjà le même mode de fonctionnement cérébral, donc déjà à la base.
En plus.
C'est très difficile, ouais. Très difficile. Puis de toute façon, puis moi, la question que j'aime bien poser généralement, c'est pourquoi je fais ce que je fais. Essayer de reposer aux gens pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Puis généralement,
c'est
là
que tu peux citer développeur. Il n'y a plus de développeur après.
Oui, mais c'est une question qui est intéressante parce qu'elle peut faire aussi le lien avec finalement les valeurs. Donc, quelles sont tes valeurs et quelles sont les valeurs auxquelles tu adhères aussi au sein du collectif et avec le collectif. Donc, c'est... Ouais.
Mais justement, la question du sens, quand on le disait aussi, ça peut aussi reporter la légitimité. C'est-à-dire, est-ce que c'est le bon moment pour ce projet? Parce que si on voit qu'il y a trop de réticence et tout, c'est qu'à un moment donné, c'est aussi savoir reprioriser.
Bien sûr.
Parce que peut-être que dans les freins, c'est que dans les priorités des services, il y a peut-être d'autres choses.
Bien sûr.
Et ça aussi, des fois, au niveau de la gouvernance, la question du truc tendance, bankable, marketeux et tout, c'est-à-dire que si c'est pas au profit d'abord de mes collaborateurs, mais de mes clients, j'ai intérêt à bien faire comprendre que c'est par rapport aux clients de l'organisation et pas des collaborateurs que le projet va avoir lieu. Parce que si les collaborateurs, ils sont en attente depuis un certain temps que ça s'améliore pour eux et qu'on leur dit « non, je fais encore vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de l'extérieur », le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est même mes ressources internes que je vais perdre.
Ouais, et puis il y a beaucoup des éléments intéressants là-dedans, puis dans la méthode agile, c'est pas effectivement dans la méthode agile, mais c'est échouer rapidement et échouer régulièrement, qui sont les méthodes justement d'amélioration continue. Puis ça mène aussi à une certaine dose d'humilité à l'ensemble des choses. Puis ça, l'humilité est un élément très important. Puis c'est une des barrières les plus importantes que j'ai au changement à l'heure actuelle. C'est l'humilité des gens à accepter qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne savent pas. Puis celle-là, elle est énorme, puis c'est un frein très important au changement, un point très important à l'agilité ou à la flexibilité qui est associée à un projet, parce que c'est déjà ça, on n'est pas capable d'admettre qu'on a fait une erreur, puis d'ailleurs, c'est genre échouer rapidement, puis échouer souvent, est un effet qu'on accepte le fait que le processus d'apprentissage, c'est de faire des erreurs, ce qui est fondamental chez l'humain, là j'invente absolument rien, l'enfant apprend en faisant des erreurs. Si on ne lui laisse pas l'occasion de faire des erreurs, l'enfant cesse d'apprendre. Donc, c'est la même chose chez l'adulte. Si on empêche les adultes de faire des erreurs, donc on ne met pas, on peut être confiance plus tôt, mais c'est justement l'espace de confiance qu'on met en place, qu'on a le droit à faire, on a le droit à l'erreur comme humain. Et cette erreur-là va servir à l'organisation parce que l'apprentissage qui va en être tiré va servir à l'organisation et on va être capable justement de changer la cible, changer les choses, changer les moyens en cours de chemin. Puis ça prend l'humilité aussi pour le faire. Là. Puis des fois, les très hauts gestionnaires ont un petit problème d'humilité. Donc, incidemment, vont figer des projets dans des éléments qui sont complètement absurdes.
Et il y a la peur du réapprendre. Devoir réapprendre, c'est très contraignant. Parce que je savais faire, je maîtrisais. Et, enfin, après, on ne va pas reprendre tout ce qui est la conduite du changement, mais c'est qu'à un moment donné, le côté aussi de pédagogue et de médiation du chef de projet agile. Enfin, c'est quelqu'un qui doit avoir de sacrées qualités humaines, hein, quand même, hein, le chef de projet agile. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger cette part de... Non, n'en faites pas une vision très technocentrée, parce que l'agilité, c'est un processus humain pour de la technologie, mais c'est des process humains. Et en fait, quand on commence à vouloir me gérer comme un système d'information, mais c'est fini, quoi. On me perd. Et je bug.
Alors moi, j'aime briser les systèmes. Fait que quand on m'impose une rigidité comme ça, je m'amuse à faire briser le système le plus rapidement possible, justement pour démontrer à quel point celui-ci est absurde à certains égards. J'adore ça. J'ai un plaisir fou.
Regardez le hacker.
Ouais, ben, je brise les systèmes de façon. Là, il y a plein de stratégies pour briser les processus, les choses comme ça. Puis c'est justement un test important aussi à faire. Puis là, on parlait d'agilité. C'est justement d'être capable parce que si le système agile comme supposément agile qu'on met en place pour peu importe la raison, se brise facilement, on a un problème fondamental parce qu'il n'est pas fait pour être avec des humains. Il n'est pas capable de gérer le fait qu'on a des bonnes, mauvaises journées, qu'on a des émotions, qu'on a des intérêts cachés, qu'on a des objectifs cachés qui sont dans la tête de ça, qu'on n'est pas capable de comprendre l'ensemble de comment fonctionne un groupe organisé d'humains. Et souvent non structuré, là, contrairement, disons, on va prendre, puis en gestion d'incidents, c'est ça qui est très drôle, puis qui remet en lumière, c'est que les ce qu'appelle les corps organisés comme la police, l'armée, ne réagissent pas de la même façon que les corps non organisés comme la société civile en général. Donc, on peut pas répliquer un modèle puis le mettre dans l'autre, ça ne fonctionne juste pas. Pour beaucoup, beaucoup de raisons culturelles associées au groupe, au corps organisé, entre autres, qui favorisent un certain nombre de choses qu'on peut présumé, qui n'est pas le cas ailleurs. Puis justement, on est d'accord, c'est des humains. On est des humains, puis si on n'est pas capable de comprendre qu'on fonctionne dans un environnement d'humain, ça mène à l'échec.
On en revient à la culture partagée. C'est pareil, tu me mets avec des influenceuses, je suis paumée, hein. Je comprends rien. C'est fini.
Jusqu'à ce que vous adoptiez un langage commun, peut-être.
Ouais, j'aurais plus de valeurs communes dans ce cas-là, puis je pense qu'on ne partage pas les valeurs de ces
voilà,
groupes.
Le langage, à la limite, les valeurs, on reviendra.
Effectivement. Non, mais même, c'est pareil, elles ont leur vocabulaire, hein, j'avoue, parce que puis elles ont une culture qui leur est propre. Hein. Moi, elles me refont l'histoire de France, hein. Je ne reconnais pas mon pays. C'est terrible.
Ouais, mais c'est universel. J'ai eu des influenceuses même dans le pays que j'ai visité la semaine dernière. Donc, des cas de tout à fait fascinants de ça. Fait que c'est universel, même s'ils ne partagent pas la même langue.
Ah bah. Mais bon, après, c'est. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que même si. En fait, je ne dirais pas qu'on peut reproduire exactement la même chose, mais quand on veut conduire le changement, il y a des questions à se poser. Et comme l'humain reste humain, c'est-à-dire qu'il y a des spécifications techniques de l'humain à tenir compte et qu'en fait, la grille de lecture pour amener du changement et pour amener, oui, du management, tout ce qui est lié au leadership, finalement, c'est des qualités. Quel que soit le secteur d'activité ou le domaine qu'on regarde, que ce soit même dans le non-professionnel, mais dans le personnel, le leadership, c'est aussi par rapport à notre environnement familial. Donc, et c'est des qualités humaines. Et en fait, à un moment donné, c'est d'arriver à identifier les différents profils et après à savoir communiquer avec ces différents profils. Et donc, la fluidité du projet et donc l'agilité réelle sera celui qui aura les meilleures capacités d'adaptation aussi à son équipe, à son environnement, et qui saura un peu, qui saura jongler et qui saura faire en sorte que la sauce, elle soit maintenue et que la mayonnaise, elle retombe pas, quoi, parce que c'est un vrai travail. Et c'est pour ça que le vrai chef de projet agit, c'est pas n'importe qui. Et par contre, on a une sacrée bande de pinoufs qui se disent experts parce qu'ils vont utiliser plein de mots. Mais moi, à partir du moment où ils vont me faire vouloir rentrer mes équipes dans des cadres, qui vont me dire « mais je sais » et tout, non, si déjà tu pars du principe que tu sais tout, t'es déjà mal barré.
Je parlais de l'humilité. L'humilité est justement sur le fait que tu ne connais pas tout et tu le sais que tu ne connais pas tout et tu l'admets que tu ne connais pas tout. Et ça, au niveau de l'agilité, c'est fondamental parce que si ça, c'est pas présent, on va nécessairement rater les activités agiles parce qu'il faut être capable d'aller dans cette direction-là. Si on est incapable d'y aller, on va juste justement faire... On s'en va vers l'échec de toute façon quand on n'est pas dans ce contexte-là.
Et puis, il pourra s'enrichir de ses expériences et de différents univers qu'il aura rencontrés. Parce qu'autour des projets, de toute façon, on va répliquer une méthode de raisonnement, mais en aucun cas, on va reproduire exactement la même chose, puisque c'est des projets différents et des acteurs différents. Mais c'est un enrichissement sur nos capacités à mieux réagir, à mieux fédérer, à mieux... Enfin, à un moment donné, il va se bonifier, il va faire comme le vin. Ah là là, qu'il laisse faire la magie de l'agilité et qu'il arrête de vouloir faire entrer tout le monde dans des cases. Parce qu'il perd cette capacité lui-même à s'enrichir et à devenir bon. Parce qu'au départ, on n'est pas bon, mais c'est normal, on manque d'expérience, on manque de pratique. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Eh ben, c'est en animant des groupes projets qu'on devient agile. On se décrète pas agile, on le devient. La pensée du jour.
Ouais, Marina, tu étais pensée, qu'est-ce qui circulait dans la...
Je me disais, on le devient ou pas, en fait. Tout dépend, puisqu'on en revient à l'humain aussi et à la capacité de remise en question. Je suis pas certaine que ça soit donné à tout le monde, cette capacité. En tout cas, cette capacité-là n'est pas...
Après, ça s'appelle... Mais non, mais... Après, ça s'appelle la gestion des cons. C'est un autre sujet.
Oui, mais ça fait partie de l'organisation aussi et des
projets.
Mais justement, voilà, c'est pour être agile, il faut, oui, je vous rejoins sur le fait qu'il faut savoir aussi se remettre en question. Il faut considérer qu'on ne sait pas tout en tant que chef de projet et que justement, c'est le collectif aussi qui nous nourrit et qui nous fait avancer. Donc, c'est pas forcément donner non plus à tout le monde. Et comme tu disais, Ingrid, on ne devient pas... Finalement, on n'est pas agile. On peut le devenir. Mais tout dépend aussi du profil de la personne et des personnes.
Et une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de reformuler et re-reformuler.
Mais c'est ça aujourd'hui aussi, une espèce de frein dans certaines organisations, parce que ça fait tellement longtemps qu'elles sont finalement implantées et qu'elles ont leurs process, leurs protocoles, leurs méthodes, leurs outils, que ça peut être aussi un frein justement par rapport à certains, à de nouveaux usages, à de nouveaux enjeux, à s'adapter à de nouveaux enjeux, je pense, en tout cas.
Et là, j'en reviens à ce que je dis souvent. C'est pas parce que j'ai rempli toute la méthode ISO truc muche ou que j'ai fait tous les documents de l'homologation. Si j'ai mal rempli, ce sera le bordel quand même à la fin.
Comme le
donc, comme disait Nicolas Loïc, l'intelligence, faut pas la mettre de côté, quoi. À un moment donné, il s'agit de le cadre, je l'utilise à bon escient et correctement. Et donc, je l'adapte à la situation. Mais les capacités d'adaptation nécessitent quelques capacités intellectuelles aussi. Et reproduire et vouloir faire que tout le monde soit identique, c'est pas bon. Hein. Ça mène à l'échec. Hein. On a déjà essayé. Hein.
C'est du taylorisme. C'est la chaîne de montage façon très, très... On est juste un atome dans l'ensemble, mais c'est pas ça que l'humain est dans l'ensemble du processus. On est autre chose. Il faut juste se donner des moyens pour aller plus vite. Parce que pour moi, une méthodologie ou une liste de contrôle, c'est un accélérateur. Parce que je passe plus du temps sur des choses qui n'ont pas de valeur. Je mets mon temps sur des choses qui ont de la valeur. Et ça aussi, les gens ne maîtrisent pas cette notion-là de où mettre son temps sur des activités qui ont de la valeur dans ce qui m'est demandé dans l'environnement. Ils vont juste clouer le même clou. Mais tu sais, c'est les mêmes humours au sens où on a, où on rit énormément des fonctionnaires ou des employés de l'État, ou des employés de la voirie ou peu importe. Justement, on voit, puis c'est une très vieille blague, pendant qu'il y a déjà largement entendu. Il y a quelqu'un qui observe, il y a un monsieur qui arrive, creuse un trou. Un autre monsieur arrive, remplit le trou. Et ainsi de suite pendant toute la journée. Puis à la fin de la journée, il demande qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous remplissez et refermez? Vous refaites un trou et le remplissez immédiatement. Ah, mais c'est parce que la personne qui pose l'arbre est malade aujourd'hui.
Mais ça, ce que tu es en train de souligner, ça se passe beaucoup, par exemple, dans le secteur du bâtiment, en conduite de projet sur un chantier. C'est exactement ça. Ça peut.
Où les gens ont complètement oublié le sens commun ou ont complètement oublié que le processus est construit, mais qui est complet, ne peut pas vivre de façon autonome ou atomique, chacun des composants. Si une des choses ne fonctionne pas, ben l'ensemble du processus est brisé, donc le processus est mal foutu de toute façon. S'il se brise à ce genre-là, ben il y a quelqu'un qui a mal fait sa réflexion de mise en place du processus associé. Là.
Et de considérer peut-être aussi le travail de l'autre dans ces cas-là, puisque considérer le travail de l'autre et le fait que les tâches soient finalement liées aussi en conduite de projet.
Mais dans ce cas, après, on va voir aussi que la problématique, parce que tout ce que nous décrivons depuis tout à l'heure, ça veut dire un gros temps de réflexion à la conception, à la phase initiale, en fait, dès le départ, pour que finalement on se comprenne tous.
Oui.
Et qu'après, on gagne énormément de temps. Parce que c'est vrai que si je partage les outils et que je partage la connaissance de la méthodo, forcément, mes utilisateurs finaux vont même pouvoir être force de proposition. J'ai plus besoin de leur tirer les vers du nez. Ce sera beaucoup plus fluide parce qu'on va prendre aussi des habitudes de compréhension. Et comme on aura ajusté assez rapidement, il n'y aura pas de trop gros dégâts et trop gros écarts à corriger. Mais normalement, s'il y a bien cette considération de l'autre, prise en compte de l'autre, prise en compte de l'environnement, si tout se déroule comme le voudrait la philosophie de l'agilité, logiquement, après, oui, je gagne du temps. Mais il ne faut pas que je néglige ce temps et départ. Sauf que j'en ai, c'est tout de suite, il faut que je fasse voir que je suis bon, l'ego. Je vais mon estime de moi-même et il faut que je parte au résultat, quitte à aller... au début, tu vas nous faire un peu d'esbrouf parce que comme on ne sait pas encore trop bien ce qui va ressortir, oui, au début, tu peux faire illusion. Mais quand on arrive à la fin des premiers incréments, le premier, on commence à dire, tiens, c'est bizarre, il y a des trucs, mais bon, c'est le premier. Arrive le deuxième et au troisième, ça cartonne et le projet peut même être stoppé. Et c'est là où... c'est là où la remise en cause est compliquée. Hein.
Entre autres, il faut que le système ou le processus prévoit l'échec. Mais pas prévoir tous les types d'échecs qu'il peut y avoir, mais prévoir une façon de gérer l'échec, d'accueillir l'échec. Pas gérer, mais vraiment accueillir l'échec dans soit l'itération ou peu importe dans la structure.
Et ça, dans le RACI, ils le mettent jamais. C'est comme le risque de leur incompréhension, c'est un risque qui n'est jamais abordé. Et pourtant, qui est tellement réel et tellement, qui est tellement lié aussi à la vie des projets. C'est normal. Le pire, c'est que faut pas qu'ils culpabilisent, c'est que c'était normal au départ d'avoir des écarts.
Ouais, c'est
pas des erreurs.
C'est l'absence de tolérance à toute déviation de la planification initiale. Et d'ailleurs, c'est même le problème d'une planification trop rigide. C'est qu'on ne lui permet pas d'évoluer, de suivre le terrain. Encore là, elle n'est pas agile. Elle manque de flexibilité. Fait que cette planification-là ne doit faire que des jalons très... Très méchant. C'est ça, on n'est pas dans le comment. C'est ça, on revient toujours, c'est pas dans le comment, c'est pourquoi on fait les choses, c'est quoi les objectifs, des choses comme ça. Mais le comment, on laisse aux équipes en itération, puis on adapte en conséquence, mais toujours avec l'objectif. C'est-à-dire, on a des exemples qui font fonctionner. C'est Google développe en agilité et ce qui leur permet justement une très grande vitesse de changement dans les produits qu'ils offrent. parce qu'ils sont capables de faire ça, mais l'objectif demeure toujours en vue. Fait qu'ils sont pas là parce qu'ils documentent pas, ils sont là puis ils réussissent leur modèle parce qu'ils adhèrent au modèle et ils en tirent le plus grand bénéfice. C'est sûr que rendu à la grosseur de Google, tu peux imposer ton modèle aux employés qui rentrent. Ça, c'est une chose. Dans une organisation où on a une culture qui prédate l'agilité, disons ça comme ça, va avoir beaucoup de difficultés. Mais encore là, est-ce que l'agilité en tant que telle est le meilleur moyen ou juste d'y insérer un peu de flexibilité dans ces choses qui sont déjà en place? Probablement, c'est déjà une meilleure solution.
Après, il y a la question culturelle aussi. Parce qu'on peut avoir des entreprises qui ont envie de plus d'autonomie, plus d'agilité, en tout cas de la part des collaborateurs. Mais il y a aussi la question culturelle, parce que des fois, ça ne fonctionne pas. Un dirigeant, il peut avoir envie de ça. Une équipe peut avoir le souhait, en tout cas, de devenir plus autonome, plus flexible, etc. Mais je pense qu'il y a quand même une question culturelle qui se pose dans le sens où d'un pays à l'autre, on va pas forcément avoir le même type d'implication, on va pas avoir forcément les mêmes représentations, on va pas forcément avoir envie de s'impliquer plus que ça parce que le travail fait que... Mais c'est vrai, mais non, mais...
Puis on n'a pas le même fuseau horaire, alors pour faire des réunions en commun, c'est galère.
Oui, aussi, mais après, on a tous, en tout cas ici, autour de la table, on a pu, on a été amené à rencontrer des personnes issues de cultures différentes, de pays différents, et c'est vrai que c'est pas forcément la même manière de travailler, de collaborer. Il y en a qui sont beaucoup plus flexibles et autonomes, mais naturellement finalement. Et en France, c'est pas toujours comme ça, et c'est une réalité. Et on peut avoir justement des entrepreneurs et des dirigeants qui vont être hyper innovants par rapport à tout ça et par rapport à ces modèles organisationnels. Mais il faut qu'ensuite en face, ça prenne quoi et ça matche. Et c'est pas toujours le cas non plus.
Non mais par nature, on est des rebelles. Hein. Nous, on a toujours fait nos révolutions. Hein.
Voilà.
Nous, c'est culturel. Hein.
Mais c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de considérer aussi cette question-là, la question culturelle.
Oui, t'as vu comment j'ai pensé aux cégétistes?
Oui.
Oh, c'est culturel hein, chez nous. On a notre lot comme ça de rebelles qui est contre tout. Très français. Mais le pire, c'est qu'ils poursuivent. Hein. Ils ne s'arrêtent pas, ils continuent. Hein. C'est comme celui, il y a trop de monde à la plage, mais il va quand même à la plage. Mais il va gueuler, il va ronchonner, il va faire chier tout le monde autour de lui. Mais il va continuer.
Oui.
Ouais, français.
Ouais, pas juste français. Il y a certains types de personnalités qu'on retrouve aussi. Il y a des accélérants, c'est-à-dire qu'au niveau de la langue ou la culture, va modifier certains aspects de la personnalité des gens. Mais il y a quand même, il y a un et l'autre, là, ce fait. Là. C'est-à-dire, j'en connais plein de gens qui vont s'entêter. Sans considérer la culture ou au pays ou ça, à des gestes complètement vides de sens ou dans lesquels même ils vont être malheureux, mais ils s'entêtent à faire un geste qui les rend malheureux. Puis c'est très. Moi, ça me fascine de voir les gens qui se mettent dans une situation d'échec eux-mêmes, dans le sens, pas au sens agile d'évoluer, mais au sens où c'est imprévisible qu'ils vont faire, qu'on va se parler de la plage. Moi, je suis un bon exemple. Je ne voyage jamais dans les hautes saisons. Dans les endroits, parce que les hautes saisons, c'est inutile, c'est sûr, je vais être malheureux. C'est juste plein de monde, ça fait tout, ça détruit, ça fait du bruit, ça me permet pas d'apprécier l'endroit à sa juste valeur. J'ai juste le touriste qui fait du bruit et qui nuit à la beauté du lieu. Donc, c'est sûr que j'y vais. J'ai l'exemple, j'allais visiter Mont-Saint-Michel hors saison. Magnifique, c'est super plaisant, super agréable, c'est une très belle expérience. J'ai un très bon souvenir de cette visite-là. J'ai pu aller à ma vitesse. J'ai pas été bousculé, j'ai pas été rien, tout s'est bien passé. Peut-être les restaurateurs étaient un peu plus. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est culturel, mais parce qu'ils étaient fâchés pour d'autres raisons. Justement pour la manque d'achalandage. Mais moi, mon expérience a été heureuse. Mais je me suis pas mis dans une situation dans laquelle j'aurais été malheureux parce que j'aime pas voyager quand il y a surabondance. J'aime pas me battre pour avoir mon espace sur la plage. J'aime pas me battre pour accéder aux choses. J'aime ça avoir le plaisir de pouvoir savourer. Mais ça, c'est ma personnalité, c'est ma capacité, mon adaptation à faire ça. Mais je connais des Québécois, des Français, des Italiens, des Américains, des Canadiens anglais. Ils vont se mettre à la plage et vont se battre pour le petit... l'espace minuscule qui est impossible à avoir.
Oh, t'inquiète pas, les Italiens, ils se mettent chacun de leur côté de la plage et ils se parlent entre eux, quand, donc ils font chier tout le monde.
Les plages privées avec les transats en Italie, ils se disputent le transat.
Bon, ben on a fait un bon tour d'horizon de cette flexibilité ou cette absence de flexibilité que nous avons. Fait que, est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter avant qu'on conclue, juste à part rire?
Bon, à part qu'on a besoin de vacances, parce que pour qu'on ait fini tout ça à la plage, parlant d'agilité, c'est mal barré. Mais non, en ouais, fait, là,
techniquement, j'ai été à la plage la semaine dernière. Puis pour mes semblables québécois qui étaient à moins 40 température présente, j'ai emmerdé bien des gens.
Non, moi, ça va, je suis contente pour toi. Mais en tout cas, moi, j'en reviendrai toujours, mais ça va être, tu vas dire que c'est toujours le même dada et le même leitmotiv, c'est les facteurs humains. Arrêtons les visions trop technocentrées, n'oublions pas que c'est la technologie au service de l'humain et que l'humain est au cœur et que bah, dès lors qu'on l'occulte, on va dans le mur.
Effectivement, mais de toute façon, c'est sûr qu'on revient toujours essentiellement dans les mêmes choses, mais c'est toujours l'angle dans lequel on l'aborde, on déconstruit la situation qui permet justement d'améliorer l'état de l'art et justement d'aider à déconstruire et reconstruire mieux les éléments dans lesquels on vit, dans les éléments sociaux dans lesquels on croit. Ça, je vous remercie, ça a été encore très agréable. On a encore largement brassé ce sujet. J'espère qu'on y fera pas trop mal et il ne s'enfuira pas.
Merci.
Merci.